Voilà, ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. J'aimerais que l'on aille ensemble, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Voilà, nous avons vu dans ce premier passage, dans Hébreux chapitre 3, cet appel à considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il s'agit de Jésus-Christ. Et on pourrait dire, en reprenant ce verset, on pourrait dire considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. C'est la même chose, c'est un synonyme. Et nous avons vu cet appel par la suite à retenir, à la fin de ce passage, dans Hébreux 3, nous avons terminé par ce verset, « Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme conscience et l'espérance dont nous nous glorifions. » Par la suite, dans Hébreux chapitre 10, nous avons vu ce lien justement avec cet appel encore à retenir, retenant fermement, au verset 23, Hébreux 10, verset 23, « Retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et là encore, une autre version de ce même verset, du verset 23, dit ceci, « Confessons notre espérance sans fléchir. » À la place de « Retenons fermement la profession de notre espérance. » « Confessons notre espérance sans fléchir. » Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est ce sur quoi j'aimerais m'arrêter ce matin avec vous. C'est là le titre de mon message. Confessons sans fléchir. Confessons notre espérance sans fléchir. Beaucoup ne connaissent, ne comprennent pas le sens véritable du mot confession. Quand on entend ce mot, souvent on pense à quelque chose de négatif. Une des premières pensées qui nous vient à l'idée par rapport à ce mot, c'est la confession des péchés. Et c'est vrai que c'est là ce que signifie ce mot. Quand on regarde la définition dans le dictionnaire, je l'ai prise, et on trouve ceci. Pour un catholique, c'est ce que dit le dictionnaire, pour un catholique, c'est déclarer ses péchés au tribunal de la pénitence. Alors c'est vrai que vu de ce point-là, ça peut paraître très négatif, mais une réelle confession des péchés, quand elle est faite avec foi, de tout son cœur, en se tournant pas seulement vers un homme, mais vers celui qui a tout accompli à la croix, vers Jésus-Christ, quand on se tourne vers lui par la foi et qu'on se repent sincèrement, la confession des péchés, elle est très loin d'être négative. Mais c'est ce qui nous permet de justement être délivrés, parce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est la grâce de Dieu. Mais la confession ne s'arrête pas donc qu'à la confession des péchés. Ce mot ne signifie pas que cela. D'autres pensent, quand on parle de confession, à un dogme de doctrine, Par exemple, la doctrine des ADD, la confession de foi des ADD. Souvent, ça fait référence à cela aussi, ça définit cela, la confession. Et c'est quelque chose de bon d'avoir justement dans une église, une assemblée, une confession de foi, dans un mouvement qui montre justement la doctrine en laquelle on croit, sur laquelle on s'appuie et surtout qui est mis en pratique dans l'église. Et surtout, le plus important, qui est en plein accord avec la doctrine de Christ, la doctrine de la parole. C'est ça qui est le plus important. Mais là encore, la définition ne s'arrête pas là. La définition de ce mot est bien plus large et bien plus importante. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Quelle est la définition, la signification de ce mot, de la confession, mais voir l'importance de la confession. Alors, premièrement, que signifie ce mot ? Eh bien, on voit que quand on regarde dans les passages que nous avons lus dans Hébreux 3, Hébreux 10, quand on reprend ces passages où il est question de confession, dans certaines versions d'autres professions, on voit que le grec nous donne, par rapport à ces mots, à ce sens de dire la même chose, répéter. C'est ce que l'on retrouve quand on regarde le grec sur ces mots. Cela signifie que l'on doit croire et déclarer ce que Dieu dit. Ce que Dieu nous dit dans toute sa parole, sans rien retrancher, sans rien rajouter. Ce que Dieu nous dit par rapport au péché, par rapport à ce qui est mal. Quand Dieu nous dit dans ses commandements, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, eh bien Dieu nous appelle à déclarer la même chose, à le croire de notre cœur et à déclarer la même chose sur telle et telle attitude, à déclarer que le vol c'est un péché, le mensonge c'est un péché. C'est ce à quoi ça fait référence, répéter, dire la même chose. Par rapport au mal, par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole, oui, qui est péché, mais par rapport aussi à la vie, par rapport aussi à tout ce que nous pouvons avoir, recevoir, tout ce que nous pouvons recevoir par grâce, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Dieu nous appelle de la même manière à savoir le confesser, le déclarer. Quand nous lisons par exemple dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois », nous croyons que c'est un fait accompli. Croyons que même si ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, pour nous aujourd'hui, nous qui nous sommes engagés à marcher dans ses voies, eh bien nous croyons que réellement Jésus-Christ a pris sur lui, sur son corps, sur le bois de la croix, nos péchés, notre condamnation. Et nous le déclarons, nous le confessons. Et nous pouvons dire par là, quand cette démarche est sincère, eh bien que nous sommes sauvés. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire que l'on est sauvé, que de dire que l'on a la vie éternelle. C'est simplement déclarer ce que la parole de Dieu nous dit. C'est confesser ce qui est écrit, ce que nous recevons en Jésus-Christ. Mais ce verset nous dit aussi, par la suite, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Autant le Seigneur nous appelle, oui, à déclarer, à confesser ce que nous recevons eh bien, en lui par rapport au pardon de nos péchés, mais il y a aussi d'autres domaines, comme la guérison. Et l'apôtre Pierre pousse justement à considérer que c'est là aussi un fait accompli, que Jésus-Christ a pris sur lui à la croix nos péchés mais aussi nos maladies. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et quand nous lisons dans la parole, dans Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit », eh bien Dieu nous appelle de la même manière à le déclarer, à le confesser, à le croire, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas que la guérison, que Dieu peut permettre aussi un temps dans la vie d'une personne la maladie pour plusieurs raisons, pour de bonnes raisons. Mais notre foi, notre confession de foi doit donc inclure toute la vérité de la parole de Dieu, tout ce à quoi le sacrifice de Christ pourvoit, englobe toute la volonté de Dieu. Bien entendu, on ne doit pas déclarer aux autres, à ceux qui nous entourent, eh bien, une bénédiction que l'on espérerait avoir, une guérison sans l'avoir reçue. Je ne dois pas déclarer à ceux qui m'entourent « je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri » alors que je suis toujours malade. Ce n'est pas ça la confession de la foi. Ça, c'est un manque de sagesse. Et le Seigneur nous appelle à savoir justement à être sages dans notre témoignage, tout en restant, en demeurant sur le terrain de la foi. Nous pouvons quand même si la maladie est toujours là, nous pouvons toujours dire « je demeure ferme », confesser sans fléchir notre espérance. Confessons sans fléchir notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc confesser, c'est donc affirmer une vérité de la Bible que nous avons reçue, acceptée, c'est croire avec notre cœur et répéter de nos lèvres. J'insiste là-dessus. Et on verra, on comprendra mieux davantage pourquoi par la suite. Confesser, c'est croire avec notre cœur, c'est proclamer sa foi en sachant que Dieu, oui, je le redis, est fidèle et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Merci, vous êtes avec moi. Pour l'exécuter. Et c'est important. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Nous voyons par là que donc, dans cette définition, et qui est, j'en suis bien conscient, bien encore incomplète, on pourrait davantage l'enrichir et davantage creuser dans la parole. Mais on voit déjà par là que la confession, c'est donc, ce n'est pas que la confession des péchés, ce n'est pas qu'un dogme de doctrine, mais on voit ce à quoi la confession peut nous pousser, dans quelle direction la parole de Dieu nous encourage à aller. Et maintenant, j'aimerais voir avec vous donc l'importance de la confession. Nous avons vu la définition, maintenant, j'aimerais qu'on voit l'importance de la confession, et pour cela, j'aimerais que l'on aille dans Romains chapitre 10, venez avec moi dans la parole, dans Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Voyons donc dans ce passage, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On voit donc dans ce passage que l'acte de confesser vient avant l'expérience. L'acte de confesser vient avant l'expérience. On voit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de salut sans confession. Le Seigneur nous appelle à d'abord confesser afin de parvenir au salut. De confesser, comme je le disais, certes, on passe par, et c'est une marche obligatoire, la confession des péchés. Une réelle repentance, une conversion pour se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle donc pour parvenir au salut, à confesser nos péchés, mais pas que, à confesser notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix, à confesser que oui, il a pris sur lui nos péchés, qu'il est mort, mais bien plus qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est victorieux. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à confesser pour parvenir au salut. Et ce matin, j'aimerais faire vraiment une courte parenthèse à ce moment pour dire peut-être à quelqu'un, si tu n'as pas fait cette expérience et que tu, justement, n'es pas parvenu au salut et que dans ta vie, tu ne peux pas dire « je suis sauvé, je sais où je vais, je suis en paix avec Dieu, j'ai la vie éternelle », le Seigneur est celui qui t'appelle à confesser justement, à confesser ta foi, à te tourner vers lui. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a la grâce de Dieu pour tous les hommes, pour chacun de nous. Et le Seigneur est celui qui veut, oui, te bénir, te délivrer, te donner le pardon de tes péchés. Ce matin, tu peux, toi aussi qui es là, quel que soit cet enseignement que nous entendons sur la parole de Dieu, recevoir la grâce de Dieu, l'expérimenter. Parce que Dieu est vivant et vrai, il est toujours le même et il est celui qui veut, oui, vraiment te bénir, te guérir. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais le salut n'est pas la seule grâce à saisir, en confessant par la foi. Et j'aimerais voir avec vous trois domaines dans lesquels nous voyons l'importance de confesser sa foi. Le premier, c'est dans notre marche avec Dieu. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ce verset qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand nous lisons cela, il est bon de nous le rappeler et de le confesser. Il est bon de savoir le proclamer et de annoncer aussi, hein, de la même manière que David dans la parole, de proclamer ce qu'il était en Dieu et pour nous en Christ. David, dans le psaume 139, verset 14, pouvait dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David mettait en pratique justement cela. Il confessait sa foi en Dieu et l'œuvre de Dieu dans sa vie. Ce qu'il était en Dieu, il ne se mettait pas en avant, même si on sait que David était un homme d'une belle figure. Mais ce qu'il confessait, c'était l'œuvre de Dieu dans sa vie. Un homme, il était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et il reconnaissait l'œuvre de Dieu qui était admirable, qui était belle, qui était merveilleuse dans sa vie. Et j'aimerais nous demander à chacun de nous ce matin, qu'est-ce que nous confessons dans notre vie? Qu'est-ce que nous confessons sur nous-mêmes, dans notre marche avec Dieu? Il est important de savoir veiller à nos paroles, à ce qui sort de notre bouche. Parce que nous voyons certains chrétiens qui ne font que déclarer leur défaillance, leur état misérable, leur manquement, leur limite, leur chute, leur ancienne vie, leur nature charnelle. Et ils s'abaissent toujours, ils restent et ils demeurent dans cet état. Et ceux qui agissent ainsi ne réalisent pas ce qu'ils ont pleinement en Jésus-Christ. Mais en plus de cela, en ayant une telle attitude, ils s'empêchent d'y entrer dedans. Et en plus de cela, ils n'élèvent pas Dieu ni l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais à l'opposé, ils louent le diable et sa puissance. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Et ce matin, nous avons entendu un don spirituel, justement. Alors, je ne dis pas que c'est l'attitude de tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à entrer dans cette vie de l'Esprit pleinement en Jésus-Christ, à recevoir toutes les grâces de Dieu. Mais nous avons entendu un don ce matin qui nous montre aussi que ça peut être par orgueil qu'on reste dans une telle attitude de faiblesse, de misère. Et le Seigneur nous appelle à savoir placer entièrement notre foi en lui, à déclarer ce que nous sommes en lui. Et quand nous sommes réellement repentis, oui, nous pouvons dire que nous sommes pardonnés, qu'à la croix nous avons le pardon de tous nos péchés, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Et c'est important de savoir veiller à ce qui sort de notre bouche, parce que notre confession nous gouverne, c'est une loi spirituelle. Et nous voyons des personnes qui, comme je le disais, sont sans cesse en train de s'abaisser, de se rabaisser, et qui finalement sont par la suite bloquées par leurs paroles. Ils sont par la suite empêchés d'avancer, de progresser. C'est leurs paroles qui les conditionnent. Alors je ne dis pas que, et comprenez-moi bien ce matin, que c'est en se mettant à annoncer toutes sortes de bonnes paroles sur nous-mêmes qu'il y aura tout un changement instantané. C'est pas une méthode. Je suis en train d'annoncer juste ce que nous avons pu lire dans ces passages de Hébreux 3, Hébreux 10, où nous voyons que le Seigneur est celui qui nous appelle à confesser notre foi. Et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est pas en étant dans le péché et en disant « je suis sauvé » que je serai sauvé. Si je reste et je demeure dans le péché, dans la désobéissance, non, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Et ce que je dois déclarer et confesser, c'est mes péchés et demander pardon à Dieu. Et par la suite, oui, je pourrais confesser en réalisant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que je suis pardonné. Mais c'est pas, comprenons-le, bien comme il faut, pas une méthode, ça vient du cœur, c'est en croyant du cœur, nous avons lu dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyons donc par là l'importance de confesser sa foi dans notre marche avec Dieu. J'aimerais voir maintenant un autre domaine où nous voyons l'importance de confesser sa foi, c'est dans le témoignage. Autour de nous. Nous voyons dans Matthieu chapitre 10, verset 32, ce verset qui nous dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc nous voyons par là, dans un simple verset, toute l'importance de confesser Jésus-Christ devant les hommes. Nous le comprenons très facilement, parce que si nous renions Jésus-Christ devant les hommes, eh bien, il nous reniera devant le Père. Par contre, si nous confessons, nous prenons position pour Jésus-Christ devant les hommes, nous avons aussi cette assurance que lui, Jésus-Christ, nous confessera devant le Père dans les cieux. Et l'Esprit de Dieu, nous le voyons dans la parole à plusieurs reprises, dans plusieurs passages, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous pousse, nous presse à confesser Jésus-Christ autour de nous, à témoigner de lui. Et nous voyons par là, dans ce verset, dans 1 Jean chapitre 4, verset 2, ce verset qui nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'Antichrist. Donc tout esprit, toute personne qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Seigneur est celui qui nous appelle à confesser Jésus-Christ autour de nous. Et j'aimerais maintenant nous poser cette question par rapport à ce domaine, par rapport au témoignage. Qu'est-ce que nous confessons? Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce que tu confesses? Sur ton lieu de travail, dans ta famille, auprès de tes amis, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que ceux qui t'entourent entendent? Est-ce qu'il ne sort de ta bouche que de mauvaises paroles, des mauvais propos, des blagues obscènes, des paroles de jugement, de critique? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est cela qui est important ce matin. Examinons-nous. Qu'est-ce qui sort de notre bouche dans notre témoignage? Est-ce que, oui, dans notre témoignage, on entend, dans notre lieu de travail, dans notre entourage, eh bien, que nous confessons Jésus-Christ, que nous confessons sa parole, que nous confessons oui, le message de l'Évangile et tout ce que nous avons, nous recevons par sa grâce? Qu'est-ce que nous confessons? C'est vrai que la confession peut exiger des sacrifices. Ce n'est pas toujours chose facile de prendre position pour confesser Jésus-Christ. Et nos frères et sœurs, dans des pays persécutés, nous le montrent bien aujourd'hui. Et nous voyons vraiment l'exemple qu'ils nous donnent justement sur cette prise d'opposition malgré l'épreuve et les difficultés par lesquelles ils peuvent passer. La confession peut exiger des sacrifices. Voyons même un verset dans la parole qui nous dit, qui nous montre cela, dans Jean chapitre 12, verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » On voit ces hommes qui étaient des chefs religieux, qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ, mais qui n'en faisaient pas l'aveu. Ils ne prenaient pas position, devant les hommes, ils n'osaient pas confesser Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, ils pouvaient être exclus. La confession, oui, de Jésus-Christ peut amener des sacrifices, une mise à l'écart, des jugements, des critiques. C'est vrai, on le sait. Mais néanmoins, confessons, mes frères et sœurs. Confessons notre Dieu. Confessons notre Seigneur, notre Sauveur, qui, lui, nous a montré justement ce grand exemple de savoir confesser qui il était en venant sur cette terre. Et oui, on sait où cela l'a conduit, au grand sacrifice, à la croix pour chacun de nous. Et Paul a pu le rappeler justement à Timothée. Paul a pu rappeler à Timothée cela en lui disant « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » Oui, gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ a annoncé qui il était et allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix pour chacun de nous. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il s'est engagé pleinement. Et il nous appelle de la même manière à savoir le confesser, à savoir prendre position pour lui. Maintenant, comment réagirions-nous aujourd'hui si nous venions à être persécutés, à être attaqués à cause de notre foi? Comment réagirions-nous si nous étions dans ces pays comme en Syrie, en Irak, en Corée du Nord? Comment réagirions-nous sincèrement? Seigneur vraiment nous appelle à savoir prendre position fermement, à confesser sans fléchir notre espérance. Un homme a pu bien entendre cette parole. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Il y avait plusieurs disciples qui étaient là à l'écoute du Seigneur, mais un homme en particulier a pu l'entendre et a pu par la suite malheureusement renier Jésus-Christ. Vous savez, les questions de Pierre. Et nous voyons ce passage où à trois reprises, voyons Pierre renier le Maître, renier Jésus-Christ. Alors, on peut se dire, et on ne va pas lui jeter la pierre, parce que très certainement, il avait des raisons. Il y avait, oui, ces craintes d'être persécuté, mais persécuté physiquement, d'être mis à mort. Le maître était conduit justement au sacrifice. Donc, il y avait ces circonstances, mais en plus de cela, il y avait une révélation qui manquait. Il ne saisissait pas encore pleinement qui était Jésus-Christ, son œuvre à la croix, sa grâce. Donc, on va pas dire que on l'excuse, enfin que c'était bien, mais on peut comprendre dans ces circonstances une attitude, l'attitude qu'il a pu avoir. Néanmoins, la parole de Jésus-Christ était là. Quiconque me reniera, devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Et cette parole nous concerne tous encore aujourd'hui. Mais par la suite, voyons vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est réelle, encore pour chacun de nous. La grâce de Dieu qui a fait que Pierre a été restauré, réhabilité, et qui a fait que Pierre a pu par la suite même être à la Pentecôte, a pu annoncer ce message, le message de l'Évangile, l'œuvre de la croix, à ces hommes qui étaient là. On voit vraiment la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Pierre s'est repenti sincèrement. Et le Seigneur, de la même manière, ce matin, s'appelle à considérer ces choses. Peut-être que dans ta vie, tu as fait aussi, au départ de ta marche chrétienne, une belle confession. Comme Paul pouvait le dire à Timothée. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a une différence entre le début de cette marche, cette belle confession que tu as rendue devant un grand nombre de témoins, et ce qu'il se passe aujourd'hui, dans ta vie, dans ton quotidien. Peut-être qu'il n'y a plus le même zèle, la même ferveur pour témoigner de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, il y a une urgence. Il y a une urgence et le Seigneur nous appelle à considérer que son retour approche et qu'il y a un grand nombre de perdus qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et le Seigneur, ce matin, peut... à toi aussi te donner cette grâce d'être restauré, pardonné, si d'une manière ou d'une autre tu as pu un temps renier le Maître, parce que ce n'est pas qu'en parole qu'on renie Jésus-Christ, eh bien ce matin le Seigneur t'appelle à te tourner de nouveau vers lui, à lui demander sincèrement pardon et le Seigneur t'accordera sa grâce, c'est certain. Nous voyons donc l'importance là encore de la confession de foi dans le témoignage. Et j'aimerais voir un dernier domaine. Nous voyons l'importance de la confession de foi, c'est dans la louange et l'adoration. Hébreux chapitre 13, verset 15 nous dit « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On sait que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. À célébrer la louange de sa gloire. On sait que c'est à cela qu'il nous appelle, et il nous appelle à le glorifier, de tout notre cœur, chaque fois que l'on se retrouve dans ces temps que nous pouvons vivre, chaque dimanche matin, à le glorifier. Et nous voyons des exemples dans la parole de Dieu, justement, d'hommes qui ont confessé dans l'adoration le Tout-Puissant. Et ces exemples sont là pour nous, justement, nous encourager à louer, à adorer Dieu de tout notre cœur. Parfois, c'est vrai, on a ce chant qui nous dit « Je ne sais pas comme il le faut, chanter ma joie qui vient de toi ». Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des difficultés, on sait que ce n'est pas une question de vocabulaire. Mais néanmoins, je crois que si on s'imprègne de ces louanges que nous avons dans la parole de Dieu, je crois que nos cultes seront toujours débordants de louanges, d'adoration, comme nous pouvons le voir dans, par exemple, le psaume 145, nous pouvons lire « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. » Gloire à Dieu. Je crois que la Bible est remplie de louanges, d'adoration, conduite et dirigée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé tous ces psaumes à être écrits pour nous, pour que nous puissions nous en imprégner, qu'ils soient là dans le fond de nos cœurs et pour que nous puissions, dans nos cultes, ne pas manquer de mots. Mais là encore, que ce soit que ça vienne du fond de notre cœur. Et on sait que l'importance de la confession de foi dans la louange et l'adoration, ce n'est pas que le dimanche matin, mais c'est tout le temps. Et Éphésiens chapitre 5, verset 19 nous le montre bien. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Là encore, il y a une importance, à savoir dans notre quotidien. Louer Dieu, confesser notre foi dans la louange, l'adoration, le glorifier par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. On voit dans la parole un exemple qui nous montre l'importance et les conséquences d'une telle attitude. C'est dans Acte 16, verset 25, où on voit Paul et Silas arrêtés, emprisonnés. Et il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Et les prisonniers les entendaient. Si les prisonniers les entendaient, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est qu'il y avait quelque chose qui sortait de leur bouche. Alors je sais qu'on peut louer le Seigneur de tout son cœur, dans son cœur. Et je ne dis pas qu'on est plus spirituel qu'un autre si on élève notre voix dans une réunion, mais je crois néanmoins qu'il y a une importance. La parole choisit des mots qui nous montre cela. La confession, la profession nous appelle à ouvrir la bouche, à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre bouche. Et on voit cela par rapport à la louange et l'adoration, et on voit vraiment l'importance, malgré les épreuves. Quelle épreuve pour Paul et Silas! Là encore, on voit vraiment une situation compliquée, difficile. Ils avaient été roués de coups, emprisonnés, et ils étaient là, au cœur de la nuit, au cœur de l'épreuve, chantant, célébrant les louanges du Seigneur. Quel exemple! Et tous ceux qui étaient là les entendaient. Et je crois que si nous voyons dans ce contexte par la suite, tous ces prisonniers, quand les portes se sont ouvertes, restaient avec Paul, restaient là dans ce moment, parce qu'on sait que c'est ce qui s'est passé. Paul a pu dire au geôlier qui allait se tuer, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et s'ils étaient tous ici, je crois que c'est parce qu'ils avaient entendu quelque chose qui les retenait, qui les avait interpellés, qui les avait marqués profondément. Parce que je crois qu'un prisonnier qui est prisonnier à cause de ses mauvaises actions, je crois que si les portes de la prison s'ouvrent, parce qu'il n'aurait qu'une envie, c'est de partir en courant. Et là, nous les voyons tous arrêtés. Des prisonniers, il y en a autour de nous. Les prisonniers qui ont besoin d'entendre les louanges du Seigneur, les prisonniers dans le péché, les prisonniers dans la souffrance, des prisonniers dans l'incrédulité. Il y a des prisonniers qui sont là autour de nous et toutes ces personnes ont besoin d'entendre des paroles qui sortent de la bouche des enfants de Dieu. Nous voyons donc là encore l'importance de la confession de la foi dans la louange et l'adoration. Donc nous avons vu l'importance de la confession de foi dans notre marche avec Dieu, dans le témoignage et dans la louange, l'adoration. J'aimerais terminer en disant que, en rappelant que c'est bien plus que la confession des lèvres, c'est la confession du cœur qui est importante. Je rappelle bien que c'est en marchant dans l'obéissance, en marchant comme le Seigneur nous l'appelle, en lui étant agréable, que notre confession sera efficace. J'aimerais dire qu'un jour, on sait que toute langue confessera Jésus-Christ. Nous le savons. Un jour, toute langue, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais nous dire, vous dire, te dire ce matin, n'attends pas ce jour pour le confesser. N'attendons pas ce jour où nous nous retrouverons devant lui pour confesser le Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, dès ici-bas, dès aujourd'hui, dès maintenant, confessons-le sans plus attendre dans ces différents domaines, et il pourrait y en avoir bien d'autres. C'est la parole de la foi que j'ai eu à cœur de m'appliquer encore ce matin à prêcher. Et je ne sais pas vos situations, ce par quoi vous pouvez traverser, mais mes frères et sœurs, confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. J'aimerais qu'on puisse se tenir dans la prière. Seigneur notre Dieu, c'est toi que nous voulons considérer ce matin. Toi, le souverain sacrificateur de la foi, oui, que nous professons, que nous confessons. Nous voulons continuer de combattre le bon combat de la foi. Dans notre marche avec toi, ici-bas, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les épreuves, nous voulons continuer de proclamer la victoire de la croix, de proclamer que tu es notre victoire, que tu es le Tout-Puissant et que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qu'encore aujourd'hui, tu es celui qui nous donne de recevoir ta grâce. Seigneur, nous voulons continuer de confesser ce que nous sommes en toi. Oui, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et nous ne voulons pas garder les yeux sur le passé. Nous ne voulons pas rester dans une attitude en dessous de ce que tu as pour nous. Nous ne voulons pas te limiter, te rabaisser. Mais non, nous voulons vraiment te glorifier, élever ton œuvre à la croix, parce que nous savons qu'à la croix, il y a toutes les victoires, toutes les délivrances. Nous savons que, oui, nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Tu es celui qui libère, tu es celui qui guérit les cœurs brisés, tu es celui qui affranchit, oui, tu es celui qui redonne du courage à celui qui est désespéré, abattu. Seigneur, ce matin, étends ta main encore dans ces moments. Seigneur, et visite chacun de nos cœurs. Nous avons besoin de toi afin de continuer par la foi, en continuant d'obéir à ta parole. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous voulons te glorifier dans ce temps, te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Oui, béni soit ton nom. Amen.